Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. J'espère que vous allez bien. Oui, ça a l'air. J'ai pas beaucoup de répondants ce matin. Je sais, vous êtes troublés ce matin parce que j'ai pas de PowerPoint derrière moi. Et je veux tenter de le faire sans images. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'images à vous montrer. Mais ça va se passer dans votre tête. Qui n'a jamais été déçu par une personne qui n'est jamais venue à un rendez-vous que vous lui auriez donné? Vous lui dites rendez-vous tel jour, telle heure, et elle n'est jamais venue. Oui, c'est déjà arrivé? Quelques-uns dans la salle. Qui n'a jamais été déçu, par exemple, ou même en colère, lorsqu'une entreprise que vous aviez mandatée pour faire des travaux chez vous, par exemple, vous avez signé le contrat, vous avez même payé des arts, et elle n'est jamais venue? Oui ? Déjà arrivé ? Il paraît qu'il y a même un fait divers dans le nord de la France où on raconte qu'une entreprise de pompes funèbres n'est jamais venue pour la mise en terre d'une personne décédée. Pourtant, ils avaient signé le contrat d'obsèques, ils avaient tout payé. Le jour d'enterrement, tout le monde était là, la famille, les amis, le curé, etc. et pas de pompes funèbres. Soi-disant, ils avaient demandé à un autre prestataire qui avait oublié, qui n'était pas venu, etc. C'est même la famille qui a dû mettre en terre le cercueil et puis le recouvrir de terre. Vous imaginez le traumatisme pour une famille comme ça. En réalité, ça aurait pu être l'attitude de Dieu face à Jonas. Jonas le prophète, bien connu. Il lui avait donné un rendez-vous. Il lui avait dit, donné même un ordre d'aller parler aux Ninivites, les habitants d'une ville appelée Ninive, et il n'est pas venu. Plutôt, il est parti de l'autre côté. Quelle déception pour Dieu. On donne un rendez-vous et il ne vient pas. Et oui, on débute aujourd'hui une nouvelle série sur Jonas, le livre de Jonas. Vous inquiétez pas. J'ai mis de côté 2 Corinthiens pendant quelques semaines, pendant quelques dimanches. Mais mon but, c'est d'accompagner le club d'enfants qui aura lieu la semaine prochaine, puisque le club d'enfants, vous le savez, sera sur ce thème, sur l'histoire de Jonas. Et j'aimerais qu'on puisse, avec 4 prédications, pour les 4 prochaines, donc la prochaine sera dans 15 jours, nous aussi voir ce que nous avons à apprendre sur Jonas, pour que parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, les enfants de ce long cours, les enfants des amis, puissent ensemble explorer la parole de Dieu et apprendre quelque chose de Jonas. Jonas, et nous allons commencer par le chapitre 1er. C'est facile, Jonas, il y a 4 chapitres. 4 chapitres, on peut les diviser en 2, 1, 2, 3, 4. Chapitre 1, allez très rapidement, Jonas et les marins. Chapitre 2, Jonas et le poisson. Chapitre 3, Jonas et les Ninivites. Et chapitre 4, Jonas et Dieu. Je vous montrerai ça, tout ça, sur un autre PowerPoint la prochaine fois. On lit le premier chapitre de Jonas. Alors vous allez chercher Jonas, forcément parce que vous savez pas où c'est dans votre Bible, sauf si vous avez une tablette ou un smartphone, parce que c'est beaucoup plus simple. Vous cliquez sur Jonas et ça apparaît tout de suite. Jonas fait partie des petits prophètes, les 12 petits prophètes. On les appelait petits prophètes pas parce qu'ils faisaient 1m12. On les appelait petits prophètes parce que c'est des petits livres. Généralement, il y a entre 1 et 14 chapitres. Contrairement aux grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, etc., qui font entre 50 et 70 chapitres. Alors, Jonas, c'est à la fin de l'Ancien Testament. Juste après Abdias et avant Michée. Comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Peut-être vous vous dites que Jonas est trop connu. On connaît déjà par cœur, on sait exactement de quoi raconte Jonas. Vous l'avez lu des centaines et des centaines de fois. Bien sûr, des dizaines de fois peut-être. Alors peut-être que dans vos lectures, ou peut-être que dans votre écoute de quelqu'un qui vous aurait parlé de Jonas, il y a peut-être 2-3 petites choses qui vous auraient peut-être échappé. Et peut-être on a à apprendre encore ce matin, et je voudrais vous inviter à ça, à apprendre de nouveau quelque chose de Jonas. Je crois bien que Jonas a, ce matin, quelque chose de fondamental à nous apprendre sur Dieu. Quelque chose de fondamental. Je pense que ce texte doit être pris au sérieux. Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, trouva un bateau qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas s'était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi! Fais appel à ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous ce qui nous attire ce malheur. » Quelle est ton occupation? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et dirent, mais pourquoi tu fais ça? Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Les hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver, parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, et les jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Bon, allez, c'est bon. On a compris. On connaît la suite. Jonas, la baleine, tout ça. On connaît. C'est vrai que beaucoup de monde connaît l'histoire de Jonas. Et on l'associe toujours à la baleine, qui n'est pas du tout une baleine en fait. C'est un très grand poisson. Ça n'a rien à voir avec une baleine. Nulle part il s'agit d'une baleine. Et d'ailleurs, le poisson, en fait, il n'y a que deux versets qui en parlent. Au moment où il l'avale, au moment où il recrache. Donc il y a peut-être, sur quatre chapitres, quelque chose de plus intéressant que juste le poisson à apprendre de Jonas. D'ailleurs, c'est pas le seul protagoniste de l'histoire. Il y a aussi les marins, il y a les Ninivites, puis il y a Dieu dans l'histoire. Cette histoire est vraiment hors du commun. Il y a plein de choses qui nous gênent dans cette histoire, il y a plein de choses qui nous bouleversent, qui sont bizarres. Il y a des choses qui nous questionnent, il y a des choses qui nous bousculent. Déjà, on a l'exemple type de l'anti-prophète. Normalement, un prophète, c'est un homme de Dieu. Un modèle, il reçoit un oracle de Dieu, une parole de Dieu, une prophétie, et puis il la retransmet au peuple. C'est son boulot. Un prophète, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui mène une vie exemplaire. Et là, on a notre Jonas qui entend bien la voix de Dieu, qui lui dit d'aller à Ninive, qui lui explique ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, et lui, il se lève, on croit qu'il va y aller, puis non, il va exactement dans l'autre sens. Franchement, c'est quoi ce prophète rebelle? Ça casse toutes les vérités concernant les prophètes. Est-ce que vous avez vu un autre prophète dans la Bible qui fait la même chose? Moïse a dit qu'il ne savait pas parler. Pas de problème, Dieu a trouvé une solution, il a dit à Aaron, Aaron saura parler, et il y allait quand même. Ésaïe a dit « Je suis un homme aux lèvres impures ». Mais il a dit, il a fini par dire « Me voici, envoie-moi ». Ils y sont allés, les autres prophètes. Pourquoi Jonas? Pourquoi cette histoire dans la Bible d'un Jonas prophète rebelle qui part dans l'autre sens quand on lui dit d'aller dans une direction. Puis la prophétie elle-même, dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'est ça la prophétie, l'intitulé de la prophétie. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et si vous avez déjà lu Jonas, vous savez que Ninive n'a pas été détruite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prophétie qui ne se réalise pas? Et puis, il y a ces fameux 3 jours dans le poisson. Comment c'est possible? Un homme mangé par un poisson qui peut en sortir vivant, sans manger, sans boire, sans respirer peut-être, et se faisant à moitié digérer. C'est pas possible. Comment c'est possible? Tiens, c'est marrant, il a aussi mis 3 jours à faire le tour de Ninive en marchant. 3 jours. Ça me rappelle quelque chose. Bon, on verra ça plus tard. On peut vraiment se poser la question, est-ce que cette histoire de Jonas, c'est un récit historique, ce sont des faits réels qui se sont passés, ou est-ce que c'est de la pure fiction, c'est une parabole, une métaphore, c'est une allégorie, et que les lieux, les détails sont juste une pure invention? C'est une bonne question à se poser. Parce qu'il y a certains détails qui semblent historiques et qui ne le sont pas vraiment. La ville de Ninive, par exemple. La ville de Ninive, elle existe bien. Aujourd'hui, sur les cartes, vous pouvez chercher Ninive. Il y a la province de Ninive qui existe aujourd'hui. C'est au nord de l'Irak. Vous connaissez la ville de Mossoul. Mossoul fait partie des grandes villes du nord de l'Irak. Par contre, dans les recherches archéologiques qui ont été faites sur la ville de Ninive, il s'avère qu'elle fait que 12 km de circonférence. Alors, est-ce qu'on met 3 jours ? Christian, est-ce qu'on met 3 jours pour faire 12 km ? Combien on met ? 2 heures, entre 2 et 3 heures. Pas 3 jours. Bon, il y a un problème. Pourquoi il a mis 3 jours ? Bon, il a dû bien y aller doucement. Mais même en y allant doucement, 3 jours quand même. Pourtant, historiquement, on situe bien l'histoire de Jonas. Il a vécu sous le règne de Jéroboam. Jéroboam, deuxième du nom, et on le situe première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, 750. On parle de lui d'ailleurs dans 2 Rois 14, vous lirez. On parle de Jonas qui prophétise. Mais j'aimerais vous faire part ce matin qu'il y a un argument fondamental qui nous prouve que Jonas est un livre historique. Fondamental. Cette preuve, on la trouve dans le Nouveau Testament. S'il y en a qui ont le temps de chercher, Matthieu 12, versets 38 à 41. Et cet argument, il vient directement de la bouche de Jésus. On ne peut pas faire mieux. Juste le contexte en quelques mots. Les pharisiens demandent à Jésus, fais-nous un miracle. Ça ne leur suffit pas, ils veulent dire, ok, on veut bien croire en toi, mais fais-nous d'abord un miracle. Et voilà ce que Jésus leur répond, Matthieu 12, à partir du verset 39. Jésus leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux, il ne le sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens? Il leur dit tout simplement, vous voulez des signes? Vous voulez un miracle pour prouver que je suis bien le Fils de Dieu? Eh bien, vous n'en aurez pas. Vous n'aurez pas plus que le miracle de Jonas. Je sais très bien qu'un nouveau miracle ne va pas vous faire croire plus que tous les autres miracles que vous avez vus avant. Donc, référez-vous au miracle de Jonas. Intéressant. Donc ça veut dire un homme dans un poisson pendant 3 jours et 3 nuits, c'est un miracle. Ok. Dieu est tout puissant, il est capable de faire des miracles. C'est un miracle. D'accord. Mais attendez, c'est pas fini. Jésus dit encore ceci. Vous voyez Jonas, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Eh bien moi je vais faire pareil. Je vais rester moi aussi dans un tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. Et je vais ressusciter au 3e jour. Et non seulement je vais ressusciter, mais ça va provoquer un changement d'attitude, de vie, changement de vie de nombreuses personnes. Un changement universel, exactement comme les Ninivites ont changé d'attitude. Incroyable. Non seulement Jésus utilise l'histoire de Jonas pour expliquer sa mort et sa résurrection, mais en faisant cela, il prouve que l'histoire de Jonas est vraie, elle est historique. Pourquoi ? Parce que Jésus prouve un fait historique de sa mort et de sa résurrection en utilisant un autre fait historique de Jonas. Il ne peut pas s'appuyer sur une parabole, une fable, quelque chose qui n'a pas existé, pour prouver quelque chose qui a réellement existé. La Bible est vraie, mes amis, la Bible est vraie. Elle raconte la vérité, elle n'est pas faite que d'histoires fictives, d'histoires bien gentilles qu'on raconte aux enfants pour leur faire plaisir. La Bible est vraie, elle s'appuie sur des faits historiques. J'espère que vous le croyez. Allons-y pour ma deuxième partie, Jonas et Dieu. On a déjà parlé de Jonas le rebelle. Jonas connaît bien Dieu, c'est un prophète de l'Éternel, il entend sa voix qui leur donne d'aller à Ninive, mais Jonas ne veut pas. Jonas ne veut pas. Non, je n'irai pas. Les Ninivites sont des ennemis du peuple d'Israël, tout ce qu'ils méritent c'est la mort. Et comme je sais que tu veux les sauver, moi je ne veux pas y aller. Voilà ce que dit Jonas. En fait, il n'a pas vraiment dit ça. Mais le fait de partir de l'autre côté par rapport à l'ordre que Dieu lui avait donné, c'est assez clair. On sait que Tarsis, la ville qu'il avait dans laquelle il a prévu d'aller, ça se situe en Espagne. Donc par rapport à Ninive, qui se situe en Irak, lui il était en Samarie, c'est vraiment l'opposé. Jonas préfère fuir que d'obéir à Dieu. Jonas, t'oublies un truc là. Dieu est partout. Dieu est omniprésent sur toute la surface de la terre. Donc que t'ailles à Tarsis ou n'importe où, Dieu sera là. Pourquoi tu fuis ? Est-ce que tu connais bien Dieu ? Toi, le prophète de l'Éternel, pourquoi tu fuis ailleurs ? Dieu sera là-bas aussi. À quoi ça sert de fuir ? C'est pas pour l'excuser, mais je crois que ça nous arrive à nous aussi. J'ai déjà partagé mon expérience personnelle et mes tendances passées aux fuites en avant. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais c'est exactement ça. Quand il y a un obstacle devant nous, ben, tout ce qu'on veut, c'est l'éviter. Donc on cherche par tous les moyens de l'éviter. Souvent, on entend la voix de Dieu nous dire quelque chose, ou alors notre conscience qui nous dit « Non, ne fais pas ça. Tu sais que c'est pas bien pour toi. » Ou de ne pas aller à tel endroit, ou de ne pas rencontrer telle personne. Et puis on fait semblant de ne pas entendre ou on refuse. Surtout si le fait d'obéir à la voix de Dieu va nous apporter une souffrance, va nous faire mal. Ou alors dans certaines relations où on sait bien que c'est nous qui sommes en tort, mais notre orgueil est tellement fort, tellement puissant à l'intérieur de nous qu'on refuse d'aller voir l'autre pour lui demander pardon, même on change de trottoir ou alors on essaie de l'éviter par tous les moyens. Ou alors certains péchés qu'on n'a jamais voulu reconnaître, pour lesquels on sait qu'on doit les confesser à Dieu. Mais on sait que derrière, ça aura des conséquences, que ça entraînera la souffrance pour nous, pour nos proches. Alors on préfère continuer de les cacher. Les garder au fond de nous, c'est une sorte de fuite. Alors on a le choix entre la souffrance ou l'obéissance. Et souvent notre réflexe, c'est de fuir la souffrance. Et du coup, on prend le risque de désobéir, exactement comme Jonas. Mais attendez. Jonas avait peut-être raison. Les Ninivites, vous les connaissez ? Des Assyriens, cruels, méchants, violents. Il avait peut-être raison. Ils ne faisaient pas dans la dentelle quand ils allaient faire la guerre, les Assyriens. Ça massacrait tout le monde, hommes, femmes, enfants, bétail, tout le monde. On pourrait comparer, si vous voulez quelque chose de plus actuel, on pourrait comparer les Assyriens à Daesh aujourd'hui. Franchement, si Dieu vous demandait demain d'aller évangéliser Daesh, est-ce que vous accepteriez ? Franchement. Il y en a qui diraient oui. En tout cas, Jonas a choisi de fuir. Parce que pour lui, les attentes de Dieu étaient vraiment pas raisonnables. C'est pas raisonnable ce que tu me demandes, Dieu. Je peux pas faire ça. Et sûrement qu'il a réfléchi intérieurement, sûrement qu'il a cogité avant de partir. Il voyait la mission que Dieu lui demandait, mais il s'est dit que ses arguments à lui valaient plus que ceux de Dieu. Surtout, généralement, le problème avec Dieu, c'est que quand il nous demande de partir en mission, il n'y a pas de roadbook complet. Il n'y a pas de tracé GPS, il n'y a pas de liste des choses à emporter, il n'y a pas de liste des conséquences que ça va avoir, on n'a pas tout ça en main. Parce que Dieu nous dit, vas-y, peu importe. Jonas fait ce qu'il pense être juste à ses yeux. Donc il part depuis la ville de Samarie, où il vivait pour Jaffo, un port au bord de la Méditerranée. À 50 km, comme par hasard, il trouve un bateau qui part très loin, en direction de Tarsis. Il a assez d'argent pour payer ce bateau. Les marins acceptent qu'il monte à bord. Il est même capable de descendre dans la cale du navire pour se reposer parce qu'il est fatigué. Tellement profondément que même une tempête ne le réveille pas. Il était plutôt tranquille, Jonas. Ça a l'air de coller, tout colle parfaitement, les feux sont au vert. Je crois que parfois, il est possible d'être en dehors de la volonté de Dieu et que tout nous semble agir en notre faveur. On peut se rebeller contre Dieu et on est quand même dans un sentiment de sécurité. On voit les circonstances comme rassurantes parce que ça semble aller bien. Ça semble aller dans le même sens que nous, même une bonne nuit de sommeil, on est tranquille. Mais Dieu sait comment agir avec sa providence pour nous ramener sur le droit chemin. À nous de savoir reconnaître quand Dieu parle et quand il nous confirme ou non nos choix. Parce que le problème avec Dieu, c'est qu'il est souverain. Dieu est souverain et parfois il utilise beaucoup de moyens pour briser notre résistance. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est souverain? Ça veut dire quoi Dieu est souverain? On est souvent en lutte, je crois, avec cette idée de la souveraineté de Dieu. Souvent c'est un combat intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire cette souveraineté de Dieu? Si Dieu contrôle tout, si il maîtrise toutes les circonstances, si nous ne pouvons rien faire, alors on est comme des pantins. On est privé de notre liberté. Mais au contraire, si nous décidons de tout dans notre vie, on maîtrise la totalité de notre vie, que fait Dieu? Est-ce qu'il participe à notre vie ou est-ce qu'il nous regarde du haut du ciel, bien content, en se moquant de nous quand on fait des erreurs? Je crois que la souveraineté de Dieu est un des concepts les plus difficiles à comprendre. Et peut-être que une image peut nous aider à comprendre ça. Est-ce que vous savez jouer aux échecs? Qui sait jouer aux échecs? Ouais, on a quelques-uns quand même. Qui est vraiment un pro, quelqu'un qui sait bien jouer aux échecs? C'est assez rare. Hein. Quelqu'un sait bien jouer aux échecs? Alors on va imaginer un pro des échecs, un champion d'échecs qui joue avec un débutant, qui joue avec quelqu'un qui, c'est peut-être la première ou la deuxième fois qu'il joue aux échecs. Le débutant, lui, il a lu des bouquins, il connaît quelques stratégies au niveau des échecs, donc il joue en fonction de ce qu'il connaît, ce qu'il a lu dans les bouquins. Donc, il fait des mouvements, certains de ces mouvements, c'est pas des bons mouvements, en tout cas ça paraît absurde aux yeux du pro qui est devant lui. Lui, il pense que sa pièce, elle est bien là où il est, mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il se met en danger pour la suite de la partie. Par contre, le pro, lui, il sait exactement quelle est sa stratégie de base. Il a une stratégie, mais il joue aussi en fonction des réactions du joueur d'en face. Donc, il voit bien comment joue le débutant aux échecs. Lui, c'est un expert, donc ça veut dire il s'appuie sur son expérience, sur sa sagesse, sur les nombreuses années où il a joué aux échecs, Et chaque pièce qu'il joue, c'est pas préprogrammé. C'est comme si il calculait en fonction de ce que joue le joueur débutant. C'est comme si il tissait sa stratégie en fonction des réactions du joueur débutant en face de lui. Et il s'en aperçoit pas. Mais on sait bien ce qui va arriver à la fin. Le pro gagne. Parce que lui, il sait, il connaît. La supériorité de ce joueur professionnel, elle est indéniable. On ne peut pas la remettre en question. Alors transposons tout ça, et si Dieu est le pro aux échecs, et si nous sommes les novices. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai, vous allez me dire, la vie n'est pas un jeu. Ok, cette image a ses limites. Mais on peut comprendre l'action de Dieu comme ça. Dieu nous laisse libres de nos choix. Il nous laisse librement déplacer nos pièces sur l'échiquier. Des choix parfois basés sur une vision erronée de la réalité ou erronée de l'avenir. Et des fois, des choix qui nous mettent en danger aussi. Mais Dieu répond à nos choix. Et lui, il répond avec sagesse. Et lui, il développe au fur et à mesure sa stratégie. Toujours en faisant en sorte que nos actions soient coordonnées avec sa propre stratégie. Avec ce que lui a pensé déjà. Une stratégie qui est globale, qui est absolue, et qui prend en compte chaque être humain sur la terre. Et c'est ça qui est intéressant dans ce récit de Jonas. Un des détails, un déplacement du pion dans la stratégie de Dieu, c'est d'amener une violente tempête. C'est sa stratégie. Des vagues énormes, gigantesques, et malgré l'expérience des marins, ils ont peur. Si ça continue comme ça, ils vont tous mourir. Alors ils jettent le chargement à la mer, ça c'est le premier réflexe à faire quand on est dans un bateau, pour l'alléger. Mais comme à chaque fois que les humains se retrouvent devant une impasse, ils pensent avoir tout fait, ils pensent être au bout du bout, ils pensent être devant des éléments qu'ils n'arrivent plus à contrôler, à ce moment-là, ils se tournent vers les divinités. Chacun implore son Dieu. Chacun prie son Dieu. Et apparemment, ils avaient des dieux très différents. Mais aucun ne répond. Alors du coup, ils se souviennent, ah oui, c'est vrai, Jonas est au fond de la cale en train de dormir, allons le réveiller, et qu'il implore lui aussi son Dieu, au moins qu'un des dieux, parmi tous les dieux, puisse répondre. Mais Jonas ne prie pas, vous avez remarqué? Jonas ne prie pas. Pourquoi? Il se doute bien que ça dépend de lui. Il se doute bien que s'il doit prier, il n'a juste pas envie de prier, parce que s'il prie, ça veut dire qu'il faut qu'il demande pardon à Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'il se mette en règle avec lui, il faut qu'il reconnaisse son péché. Et ça signifierait pour lui accepter la volonté de Dieu, et ça, jamais. Ça, non. Jonas n'y veut pas. Et pour les marins, qui sont peut-être plus pratiques que spirituels, ils cherchent absolument d'où pourrait venir ce mauvais sort qui est parmi eux. Et peut-être justement le sort, la chance, pourrait déterminer où se situe le problème sur ce bateau. Leur raisonnement est le suivant, quelqu'un d'entre nous doit être sous le coup d'une malédiction, donc il faut qu'on sache qui c'est. Et le sort tombe sur Jonas. Vous avez remarqué, Dieu continue à tisser sa stratégie. Le sort tombe sur Jonas. Dieu pousse Jonas à se repentir. C'est toi, Jonas. C'est toi le problème. Maintenant que tout le monde sait que c'est lui, il pourrait au moins se mettre à genoux et puis demander pardon à Dieu. C'est évident pour tout le monde. Le problème, c'est Jonas. Et malgré le fait que Dieu utilise les marins pour interpeller Jonas, malgré le fait qu'il se trouve devant le fait accompli, Jonas, sa réaction, c'est d'imposer aux marins une grave décision, tuez-moi. Jetez-moi à la mer. Il préfère que les marins aient sa mort sur la conscience plutôt que lui laver sa conscience devant Dieu. C'est fou quand même. Il pourrait abandonner son orgueil, capituler devant Dieu, et il ne le fait pas. Et Jonas va jusqu'à avouer au marin qu'il est hébreu, qu'il connaît ce Dieu, qu'il sait que c'est Dieu qui provoque cette tempête, que c'est lui la cause du problème, que Dieu peut tout arrêter en une fraction de seconde. Mais malgré ça, il pense que la mort est la seule solution. Comme si son sacrifice résoudrait tous les problèmes. Mais quand on lit le récit, les marins refusent une première fois cette proposition de Jonas. Et ils mettent tout leur espoir dans les rames et dans leurs muscles pour aller ramer et essayer d'atteindre la terre ferme. Mais la tempête redouble de violence, impossible de rejoindre la terre ferme. Alors, réaction des marins, ils s'adressent au vrai Dieu. Le vrai Dieu. Ils acceptent de faire mourir Jonas, mais ils demandent à Dieu de ne pas les accabler de ce meurtre. Ils demandent à Dieu, ne nous fais pas porter la faute de cet homme et pardonne-nous de ce que nous allons faire. C'est un truc de fou. Quel exemple pour Jonas ? Vous imaginez, ils demandent pardon pour quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait et Jonas, lui qui a déjà péché, refuse de demander pardon. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est l'attitude de Dieu. Dieu aurait pu rejeter Jonas, Dieu aurait pu le faire mourir, il aurait pu faire mourir tout le monde d'un seul coup. Mais il ne le fait pas et il va continuer à tisser sa stratégie. Parce que c'est lui le pro, c'est lui le maître du jeu. Ni les marins, ni Jonas ne maîtrisent quoi que ce soit. Il n'y a que lui qui maîtrise la situation. Et c'est vraiment intéressant que ici, l'exemple à suivre, ce n'est pas Jonas, c'est les marins. Pour nous, l'exemple à suivre, ce n'est pas Jonas, c'est les marins. Ce sont eux qui ont capitulé devant Dieu, pas Jonas. Ils ont reconnu leur faiblesse, ils ont vu qu'humainement, il n'y avait plus rien à faire. Ils ont cherché d'où pouvait venir le problème. Et leur crainte de la tempête, leur peur de mourir, s'est changée en crainte de l'Éternel. Et évidemment, en peur d'être accusé alors qu'il ne voulait pas être accusé. Pour conclure, Jonas est jeté à la mer et la tempête se calme immédiatement. Que va-t-il arriver à Jonas ? Vous le saurez au prochain épisode. Franchement, la conclusion de tout ça, on pourrait se dire que Jonas est finalement quelqu'un de bien. Jonas, il s'est sacrifié pour que les marins puissent vivre. Vrai ou pas vrai ? Jonas s'est sacrifié pour que les marins puissent vivre. Mais si on regarde le contexte, on se rend compte que son sacrifice, il est totalement inutile. Si seulement il avait compris tout ça bien avant, si seulement il avait obéi, tout ça ne serait pas arrivé. Si seulement il avait reconnu qu'il avait désobéi à l'ordre de Dieu, ça ne serait pas arrivé. Jonas était bête du début à la fin. Il a fait n'importe quoi. C'est pas un exemple. C'est pas un exemple à suivre. Quand j'ai étudié ce texte, je me suis vraiment posé la question de ce sacrifice de Jonas. Et je me suis dit, ça me rappelle un verset. Ça me rappelle un verset à propos de l'obéissance et des sacrifices. Ça rappelle rien à personne ? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quel passage ? Ça vient d'où ? Samuel. 1 Samuel 15. Vous chercherez chez vous. Saül veut combattre les Amalécites. Une seule directive. Tu détruis tout. Je veux rien qui vive. Mais Saül décide quand même de prendre quelques animaux un peu beaux, etc., pour faire un sacrifice à l'Éternel. Et là, Samuel vient le voir, il dit « T'as désobéi à Dieu ?»« Ben non, j'ai pas désobéi à Dieu. J'ai juste gardé quelques moutons et quelques taureaux pour te les sacrifier, pour toi. » Et c'est là où Samuel lui dit « Est-ce que Dieu éprouve autant de plaisir dans les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Et vous remarquerez que parfois, nous aussi, Nous aussi, on préfère faire des sacrifices plutôt que d'écouter Dieu. Nous, on préfère subir la punition de Dieu parce qu'on a désobéi plutôt qu'obéir. C'est logique, ça ? Moi, j'ai parfois cette attitude dans ma vie chrétienne, de penser que c'est normal qu'il m'arrive tel ou tel malheur parce que j'ai désobéi. Du coup, je cherche ce que je pourrais bien avoir fait de mal pour qu'il m'arrive une galère pareille, et je subis le malheur qui m'arrive en pensant que, ben voilà, ça va compenser ma désobéissance. Dieu va me pardonner parce que je vais me sacrifier, parce que je vais subir mon mal. Mais plus je dis ça, et plus je me rends compte que c'est très très mal connaître Dieu. C'est pas le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas un père fouettard qui vous punit quand vous faites mal, et un père Noël qui vous fait du bien quand vous faites bien. Est-ce que c'est ça notre notion de Dieu ? Je ne pense pas que ce soit le Dieu de la Bible. Ce n'est pas son fonctionnement. Comment fonctionne Dieu ? Une seule phrase. Notre Dieu est un Dieu qui fait grâce. Notre Dieu est un Dieu qui fait grâce. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait ? On le chante. Franchement, si Dieu était un père fouettard, on ne serait pas en vie. On serait déjà mort depuis longtemps. Et si Dieu était un vrai Père Noël permanent, on ne serait pas dans ce monde-là. Ça n'existe pas. C'est une fausse image de Dieu. Oui, Dieu corrige. Oui, Dieu bénit. Mais avant toute chose, il fait grâce. Il l'a fait pour Jonas. On va le voir dans les prochains chapitres, comment il a fait grâce à Jonas. Et il l'a fait par la mort de son fils à la croix. Il l'a fait alors qu'on ne méritait pas. C'est Jésus qui s'est sacrifié. C'est pas Jonas. C'est Jésus qui s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour qu'on puisse vivre. C'est ça le Dieu de la Bible. C'est celui qui fait grâce parce qu'il a décidé qu'il ferait grâce. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Pour terminer, j'ai quelques questions comme d'habitude, mais je voudrais vous les poser directement à vous. Si vous les voulez, je pourrais vous les envoyer par mail. La vraie question que je me suis posée, que j'aimerais que chacun puisse se poser, est-ce qu'aujourd'hui, on a de la difficulté à obéir à Dieu dans un domaine particulier de notre vie? Est-ce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est l'obéissance dans un domaine particulier? Dans une relation avec une personne en particulier? Soit dans notre travail, à l'école, dans notre famille ou dans l'église? Est-ce qu'on a des difficultés dans le rôle qu'on a à jouer en tant que mari, femme, en tant que père, mère, envers nos enfants, nos petits-enfants? Est-ce qu'on a la difficulté à obéir à Dieu dans notre santé? Est-ce qu'on a la difficulté à obéir à Dieu dans notre pureté sexuelle? Est-ce qu'on a de la difficulté à obéir à Dieu face à un amour trop grand pour les choses de ce monde? J'aimerais qu'on puisse prendre le temps, que vous preniez le temps de noter ces choses avec lesquelles vous luttez, ces combats, et que vous en parliez à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je voudrais prier avec vous. Seigneur Dieu de l'univers, nous sommes à genoux devant toi ce matin, parce que nous reconnaissons notre impuissance. Nous reconnaissons ta toute-puissance. Seigneur, tu es un Dieu grand, victorieux, pur, saint. Nous reconnaissons ta grandeur, mais nous reconnaissons aussi ta bonté et ton amour. Seigneur, aide-nous à comprendre cette grâce qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas la vivre comme quelque chose de passé, qui s'est passé une seule fois au moment où Jésus-Christ s'est sacrifié et a donné sa vie pour que nous vivions. Aide-nous à le voir dans le quotidien de nos vies. Seigneur, tu donnes grâce sur grâce, tu fais grâce quand tu veux faire grâce. Aide-nous, Seigneur, à réaliser combien nous ne sommes pas dans une relation de péché puni ou de bonnes choses faites qui sont bénies. Mais nous sommes dans une relation d'un Dieu tout-puissant qui fait grâce, qui aime tellement ses enfants qu'il a donné son Fils en sacrifice pour qu'il puisse vivre et avoir la vie éternelle. Seigneur, c'est difficile de dire « ta grâce nous suffit ». C'est trop dur, parce que Seigneur, nous avons besoin de tant d'autres choses pour être rassurés en sécurité. Nous allons chercher à tellement d'endroits, auprès de tellement de personnes, pour être rassurés, réconfortés. Alors que Seigneur, c'est ta grâce qui nous réconforte. C'est parce que tu as agi pour nous, et que tu agis aujourd'hui, et que tu vas agir encore dans le futur, que nous pouvons vivre cette grâce au jour le jour. C'est grâce à ça, Seigneur, que nous voulons tenir et continuer d'avancer. Père Céleste, merci pour Jonas. Exemple ou contre-exemple, Seigneur, nous avons besoin de toute façon de ta parole pour nous enseigner et nous instruire, pour savoir comment nous comporter et comment nous conduire dans notre vie de tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à mettre le doigt sur notre difficulté à obéir. Montre-nous, Seigneur, là où il y a un problème entre toi et nous, et aide-nous, Seigneur, à le corriger et à grandir dans notre relation avec toi, à grandir dans notre foi en toi, à grandir dans notre connaissance de toi, parce que nous te connaissons mal. Et si nous te connaissions bien, nous saurions que tu es un Dieu qui fait grâce. Et nous pourrions nous appuyer dessus. Seigneur Dieu, merci pour ton amour si grand envers nous. Nous le reconnaissons ce matin et nous sommes à genoux devant toi. Envoie-nous, Seigneur, pendant cette semaine qui se déroule devant nous. Nous te prions pour le club d'enfants qui va se dérouler. Tu nous envoies en mission, Seigneur, pour annoncer ton nom aux enfants qui ne te connaissent pas. Seigneur, aide-nous à être vrais, à être clair, à être patient. Aide-nous à t'obéir. C'est en ton nom que je t'ai prié pour ta gloire. Amen.